Sous la Voie lactée, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître. La Voie lactée, c'est plein de toutes petites étoiles, parce qu'en fait, elles sont toutes petites, ces étoiles, mais elles sont des milliards, et c'est ça qui fait cette lumière, ce halo. La Voie lactée, ça peut être tous les êtres humains, et ça peut aussi être toutes ces pensées. Voilà, et c'est ça qui nous éclaire la nuit, quand on se promène, soit dans une ville, soit dans une forêt. Et bien voilà, c'est parti pour la première de l'émission Sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. On a passé minuit et il est déjà demain. Beaucoup de gens dorment à cette heure. Et pourtant, c'est à cette heure que les oiseaux de nuit prennent leur envol. Alors on va prendre le nôtre et j'espère que vous n'êtes pas en pantoufle parce qu'on va descendre par la fenêtre, on va quitter le duvet, la chaise, la chambre, pour se balader une heure ensemble. Une heure pour avancer sans trop savoir. C'est un peu comme l'heure d'été, une heure qui n'existe que pour nous, mais qui n'existe pas sur les radars. Tous les troisièmes dimanches du mois, pendant cette heure qui se glisse entre le dimanche et le lundi, on va croiser des voix, des regards, des pensées. On va parler de bonheur, de révolte, de combat, en écoutant un peu de musique et en lisant quelques textes. Quelques messages qui ont voyagé jusque nous, comme des bouteilles lancées à la mer. Est-ce que vous avez déjà observé dans un ciel d'été ce halo, ce tissu de lumière, insaisissable, comme une aurore boréale, qui se dessine dans l'obscurité? Ce phénomène sidérant, on le nomme la Voie lactée. C'est le nombre infini des étoiles, petites ou grandes, qui sont peut-être à des millions et des millions de kilomètres les unes des autres, qui les connectent par l'intensité de leur lumière. Alors si vos pensées crépitent comme un grand brasier stellaire, si vous voulez éclairer les chemins de ceux qui ne dorment pas toujours la nuit, si vous avez un cocktail en bouteille suggérant une lecture pour lancer sur les ondes électromagnétiques, vous pouvez la faire parvenir sur la messagerie de l'émission sous la voie 89.4@proton.me. Les infos sont sur le site de Radio Libertaire. C'est avec grand plaisir que j'essaierai de les lire pendant une émission. Mais ne m'envoyez pas une thèse de 700 pages parce qu'on n'a qu'une heure d'antenne. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer vos propres textes, que ce soit des nouvelles, des essais ou des poèmes. Allez ma petite étoile, corps céleste non identifié, on va essayer de connecter nos neurones entre eux et de faire briller un peu plus le ciel de minuit. Ça vous parle la révolte? Parce que pour commencer cette balade nocturne, on croise « L'homme révolté » d'Albert Camus. C'est un texte qu'il a écrit en 1951 et qui s'inscrit dans son combat contre tout ce qui peut écraser un homme. Alors je ne vais pas entrer en profondeur dans ce livre qui est dense, très riche, sujet bien entendu à polémique, mais je vais vous en lire tout simplement les premières pages. Qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dans son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce nom? Il signifie par exemple « Les choses ont trop duré ». Jusque-là, oui. Au-delà, non. Vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce nom affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment de l'homme révolté que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement l'impression chez le révolté, qu'il est en droit 2. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon et quelque part, raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois « oui » et « non ». Il affirme, en même temps que la frontière, tout ce qu'il soupçonne et veut préserver en deçà de la frontière. Il démontre avec entêtement qu'il y a en lui quelque chose qui vaut la peine de, qui demande qu'on y prenne garde. D'une certaine manière, il oppose à l'ordre qui l'opprime une sorte de droit à ne pas être opprimé au-delà de ce qu'il peut admettre. En même temps que la répulsion à l'égard de l'intrus, il y a dans toute révolte une adhésion entière et instantanée de l'homme à une certaine part de lui-même. Il fait donc intervenir implicitement un jugement de valeur, et si peu gratuit, qui le maintient au milieu des périls. Jusque-là, il se taisait au moins, abandonné à ce désespoir où une condition, même si on la juge injuste, est acceptée. Se taire, c'est laisser croire qu'on ne juge et ne désire rien. Et dans certains cas, c'est ne désirer rien en effet. Le désespoir, comme l'absurde, juge et désire tout, en général, et rien en particulier. Le silence le traduit bien. Mais à partir du moment où il parle, même en disant non, il désire et juge. Le révolté, au sens étymologique, fait volte-face. Il marchait sous le fouet du maître. Le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas. Toute valeur n'entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur. S'agit-il au moins d'une valeur? Si confusément que ce soit, une prise de conscience naît du mouvement de révolte. La perception soudain éclatante qu'il y a dans l'homme quelque chose à quoi l'homme peut s'identifier, fût-ce pour un temps. Cette identification, jusqu'ici, n'était pas sentie réellement. Toutes les exactions antérieures au mouvement d'insurrection, l'esclave les souffrait. Souvent même, il avait reçu sans réagir des ordres plus révoltants que celui qui déclenche son refus. Il y apportait de la patience, les rejetant peut-être en lui-même, mais puisqu'il se taisait, plus soucieux de son intérêt immédiat que conscient encore de son droit. Avec la perte de la patience, avec l'impatience, commence au contraire un mouvement qui peut s'étendre à tout ce qui auparavant était accepté. Cet élan est presque toujours rétroactif. L'esclave, à l'instant où il rejette l'ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps l'état d'esclave lui-même. Le mouvement de révolte le porte plus loin qu'il n'était dans le simple refus. Il dépasse même la limite qu'il fixait à son adversaire, demandant maintenant à être traité en égal. Ce qui était d'abord une résistance irréductible de l'homme devient l'homme tout entier, qui s'identifie à elle et s'y résume. Cette part de lui-même qu'il voulait faire respecter, il la met alors au-dessus du reste et la proclame préférable à tout, même à la vie. Elle devient pour lui le bien suprême. Installé auparavant dans un compromis, l'esclave se jette d'un coup, puisque c'est ainsi, dans le tout ou rien. La conscience vient au jour avec la révolte. L'homme révolté, Albert Camus. On va maintenant écouter Mojodi, ce qui veut dire « mourir aujourd'hui » dans la belle langue créole des Antilles. Et c'est un titre de l'incroyable trio Delgrès qui nous soulève avec son rock and blues caribéen.
Mon préféré, Mojodi. Yeah.
êtes ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. Et c'était Mojody par Delgrès. Vous vous en doutez, le nom du groupe n'est pas dû au hasard. Il rend hommage à Louis Delgrès, né en Martinique au XVIIIe siècle. Louis Delgrès, qui était militaire, est mort en Guadeloupe en mai 1802 avec 300 de ses compagnons après avoir combattu les troupes napoléoniennes venues rétablir l'esclavage. Ceci dit, pour en revenir au texte de Camus, lorsqu'il parle de maître et d'esclave, ce n'est pas dans un sens historique précis. Quand il parle de l'homme révolté, il désigne toute personne, homme ou femme d'ailleurs, de toute époque et de tout continent, qui s'oppose au pouvoir absolu d'un autre. Et on peut très bien le rapprocher de ce qu'on vit aujourd'hui. On peut avoir un ennemi commun et se révolter contre lui. Après, en disant non, on affirme aussi. Et c'est dans cette affirmation que se joue l'avenir. Alors voilà, quand on se révolte, il faut savoir aussi ce qu'on affirme, parce que ce que l'on affirme, ce sera notre avenir. C'est là qu'il faut avoir suffisamment de convergence pour dire non, mais aussi pour proposer un avenir commun. Quand vous discutez avec quelqu'un qui vous dit qu'il va voter facho parce qu'il veut déloger notre petit président de l'Élysée, demandez-lui de dire aussi ce qu'il affirme, et pas seulement ce qui le révolte. Ça va peut-être lui éviter de voter pour un facho ou une fachotte. Bon voilà, on est passé par la révolte d'Albert. Il est toujours demain, mais pas encore 1h du matin, sous la Voie lactée, sur Radio Libertaire. Et il est tard aussi, dans les rues d'Alger, dans la chambre d'Albert Camus, à la fin de ce mois de décembre 1948. L'homme qui a écrit s'est débarrassé des vêtements de la journée. Il va maintenant les poser sur la chaise, avant de se glisser dans le lit, sous la légère toile de coton. À côté de lui, il a sur la table de nuit une lettre. Il tend sa main vers elle, touche le papier, le déplie. C'est l'écriture de Maria Cazares. Ils se sont rencontrés à Paris en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis le début de la guerre d'Espagne, Maria vit exilée en France, comme sa famille. Elle a appris le français et elle a le théâtre pour vocation. Lui, il est romancier, rédacteur en chef de Combat, un journal clandestin, et il écrit des pièces de théâtre. Ils se rencontrent, ils tombent raides amoureux l'un de l'autre et vont vivre un grand amour. Mais quand la fin de la guerre arrive, notre Albert, qui était marié, retrouve sa femme, qui était restée à Oran. Maria décide alors de mettre un terme à leur relation. Mais 3 ans plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau. La passion est toujours là et le feu amoureux se rallume. Les activités débordantes de chacun et la double vie d'Albert Camus va créer une distance constitutive de leur histoire. Pendant 12 ans, ils vont tenter d'adoucir cette distance par une correspondance très fournie qui a été publiée il y a quelques années. Ils y parlent beaucoup de théâtre, d'écriture, de l'absence et d'amour. Cette correspondance sera interrompue en janvier 1960 par l'accident de voiture qui tuera Albert Camus sur le coup. Voilà, on revient dans la chambre. On est donc fin décembre 1948. Ils se sont retrouvés il y a peu. Maria, l'exilée, écrit à Albert Camus, l'étranger de retour à Alger. Tu es partie, mon amour, me laissant toute pleine, toute couverte de toi, toute roulée autour de toi. Et je craignais tant cette entrevue de Noël. Et maintenant, demain, tu vas partir loin, loin, et je vais encore te sentir tout chaud à côté de moi, où que j'aille. Je ne t'aime pas dans l'universel, mais je ne comprends pas comment ce bonheur que ta présence continuelle en moi éveille dans mon cœur ne suffit pas à me rendre heureuse. Et il y a des moments où je m'en veux d'en vouloir plus. Mais que veux-tu, lorsque je suis chez moi, près de la cheminée comme en ce même instant, comment ne pas me sentir l'exigence de toi avec moi pour regarder le feu ensemble? Lorsque je lis Tolstoï en découvrant à chaque page tout un monde d'émerveillement, comment me passer de toi en chair et en os pour les partager avec toi? Lorsque je sors et que quelque chose dans la rue ou ailleurs me choque, me peine ou me fait rire, comment ne pas chercher ton regard? Lorsque je me couche, comment ne pas sentir que tu n'es pas là? Lorsque l'on me parle, comment ne pas penser à tes lèvres? Lorsque l'on me regarde à tes yeux et ton nez, tes mains, ton front, tes bras, tes jambes, ta silhouette, tes tics, ton sourire. Ah, je m'échauffe, mais je me comprends. J'ai trouvé le merveilleux, et on ne me le donne que par autorisation et à heure fixe. Comment pourrais-je ne pas me révolter ? Je te veux partout, en tout et tout entier, et je te voudrai toujours. Oui, toujours. Et qu'on ne parle pas de si, ou de peut-être, ou de pourvu que. Je te veux, je le sais. C'est un besoin. Et je mettrai tout mon cœur, toute mon âme, toute ma volonté, et toute ma cruauté même, s'il faut à t'avoir. Si tu n'es pas d'accord, si tu désires la paix, si tu as peur, dis-le-moi à ton retour, et écarte-toi. Sinon, j'irai jusqu'au bout. Peut-être y perdrai-je ton amour. Eh bien, tant pis. J'accepte ce risque-là. Peut-être que la vie que je me prépare ne sera faite que d'angoisse et de chagrin. Tant pis. Toi, choisis maintenant. Il est encore temps. Et dis-moi ce que tu auras choisi. C'est tout ce que je te demande. Le reste ne regarde que moi. Ce n'est pas très clair, hein ? Mais je sens qu'il y a là-dedans quelque chose de vrai. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rien fait, ni même pensé pour changer notre vie. Le seul fait de prendre certaines décisions réservées à moi seule peut modifier, crois-moi, bien des choses. Alors, je me sens forte de mon amour pour toi et capable de tout vaincre. Le moment est arrivé de choisir entre cela et tous les beaux sentiments de pitié et de générosité auxquels je me suis toujours rendue. La force de la faiblesse est très grande. Et je ne vois pas pourquoi je ne me reconnaîtrais pas le droit de mesurer avec elle celle de mon amour, qui est peut-être plus attachant, mais par là même, plus interdit. Quelqu'un doit être malheureux, et dans ce cas, je sais que l'on choisit celui qui vous rend malheureux aussi. C'est une manière de se sentir moins coupable. Voilà pourquoi je ne te demanderai jamais rien. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre une vie de sacrifice. C'est un honneur, un bonheur, une lumière qui ne m'ont pas été donnée. La fée n'était pas invitée. Cela me dessèche et me tue. Il me faut agir et vaincre, ou perdre.
Les seins.
On se balade sous la Voie lactée, sur Radio Libertaire 89.4 et sur Internet. On vient d'écouter la voix poignante et consolante de Lassa de Sella face au mur, de Cara alla Pared. Un mur liquide, un mur de larmes, qu'elle est sans doute seule à voir. Qu'en penserait notre étranger, Albert Camus, qui, entre ces quatre murs de l'autre côté de la Méditerranée, couche ses pensées algéroises sur le papier, des pensées qu'il mêle à celles de Maria Cazares. L'exilée, si absente, si présente. Nous sommes toujours fin 1948. Il s'adresse à Maria dans la nuit du dimanche 26 décembre, puis mauvaise journée. Je suis arrivée ce matin sans avoir pu dormir. L'avion filait au milieu des étoiles, lentement. Au-dessus des Baléares, c'est la mer qui était pleine de constellations. Je pensais à toi. Et toute la journée, dans une clinique, à une vieille femme qui ne savait pas à quel point elle était proche de la mort. Heureusement, il y avait ma mère, qui échappe à tout par la bonté et l'indifférence. C'est par elle que j'ai appris que ça allait très bien ensemble. Ce soir, j'ai voulu marcher dans la ville, vide, comme toujours, après 9 heures. Et puis la pluie d'ici, violente et brève. Dans la ville déserte, j'avais l'impression d'être aux confins du monde. Pourtant, c'est ma ville. En rentrant dans ma chambre, j'habite l'hôtel, j'ai eu la bizarre impression que j'allais te trouver là et que quelque chose d'immense allait enfin commencer. Mais la chambre était vide et je me suis mise à t'écrire. Tu ne m'as pas quittée depuis hier et je ne t'ai jamais aimée avec autant de violence, dans le ciel de nuit, dans le petit matin sur l'aérodrome, dans cette ville où je suis maintenant étranger, dans la pluie sur le port. Te perdre, c'est me perdre aussi. Voilà la réponse que je voulais te crier, puisque tu me l'as demandé. Mais il faut dormir, je tombe de sommeil. Que du moins je t'envoie la pensée de tout un jour plein de toi. Je vais rester ici jusqu'à la prochaine opération, dans une dizaine de jours. Écris-moi. Ne me laisse pas seule. J'étais poursuivie par de mauvaises pensées, un pressentiment. À certains moments, j'étais découragée. Oh mon chéri, que j'ai besoin de toi. Mais il y a aussi une longue douceur à te porter ainsi, comme il y en a une ce soir, aussi à mourir de sommeil et de tendresse. Je t'embrasse, mon amour, longuement, en te laissant respirer, bien sûr. J'aime mieux ne pas relire ce que je t'ai écrit hier, abruti de sommeil et mélancolique comme les rues d'Alger sous la pluie. Ce matin, le soleil entre à flot dans ma chambre. J'ai dormi 10 heures, sans un rêve, le sommeil d'après l'amour. Et il fait une magnifique journée sur la ville. Alger est la ville des matins, j'avais oublié cela. Aujourd'hui, je vais déjeuner chez ma mère, dans le faubourg où j'ai passé toute ma jeunesse. Comment s'est passé ton déjeuner d'hier? Je donnerais toute une main, j'exagère, pour me promener ce matin avec toi devant la mer et pour t'apprendre à aimer ce que j'aime, sale fille des vents. Tiens, le soleil est sur mon papier et je trace ces mots au milieu d'une flaque d'or. Hier, j'ai trouvé dans un livre cette définition du soleil, le féroce œil d'or de l'éternité. Mais c'est Rimbaud qui a raison. L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Tu vois, les matins d'Alger me rendent lyrique. J'écris de plus en plus mal et de plus en plus petit. Ça doit vouloir dire quelque chose. Pourtant, je me sens une force de plus en plus grande, un cœur tout neuf, le plus bel amour. J'attends patiemment. Ce soir, je penserai autrement, sans doute. En attendant, j'ai la confiance la plus épaisse et la plus obstinée. C'est Gustave Doré qui disait qu'en ce qui concerne un art, il avait la patience d'un bœuf. Ce matin, je suis un bœuf en amour. Enfin, pas tout à fait. M'as-tu écrit au moins? Si patient que je sois, je boue à la pensée de ces heures et de ces jours perdus. Je ne pense pas sans un serrement de cœur à nos soirées devant le feu. Tu ne sauras pas l'entretenir en mon absence, c'est couru. Essaye quand même. et veille sur lui au moins. Le genre Vestal te va très bien. Dans une semaine, je viendrai t'enlever. Dans une semaine, me voilà moins patient. Écris longtemps. Envoie un peu de toi dans cette ville qui t'attend. Reste tourné vers moi. Aime-moi comme le 24 à minuit. Et si tu es en état de dépression, pardonne-moi d'être si vivant ce matin. Mais le soleil et toi, je t'embrasse, mon amour, de toutes mes forces.
Je les trouve merveilleux, ces amants, qui pendant 12 années ne vont pas cesser de s'écrire, même si et surtout parce que leur amour n'est pas de tout repos. Allez, on va maintenant écouter Casida de las Palomas Oscuras, qu'on pourrait peut-être traduire par La maison des colombes obscures, un magnifique poème de Federico Garcia Lorca, une photographie contrastée en noir et blanc, une peinture en clair-obscur mise en musique par Paco Ibáñez. On le sait, le poète a toujours raison, et il dit dans une sorte de prémonition « Donde está mi sepultura ?» Vous ne trouverez pas la tombe du poète assassiné par des miliciens franquistes au début de la guerre d'Espagne, car il a été jeté à la fosse commune, comme de nombreux anarchistes et antifascistes. Mais vous pouvez toujours le retrouver en voyageant dans la quatrième dimension, c'est-à-dire en lisant ces textes qui résistent à l'usure du temps. Il existe aussi un enregistrement de deux des poèmes dits par Maria Cazares, que l'on peut écouter sur le site de l'INA.
Por la rama del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Yo que estaba caminando con la tierra a la cintura, vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda. Por la rama del laurel van dos palomas oscuras. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Por la rama del cerezo vi dos palomas desnudas. Y las dos eran ninguna. Por la rama del laurel van dos palomas oscuras. On
est ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous avez peut-être connu la voix et la guitare de Paco Ibáñez, exilé en France avec sa famille, quelque temps après sa naissance. Son père sera arrêté par la police de Vichy et interné au camp d'Argelès qui comptait environ 87 000 réfugiés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode inimaginable, mais au moment de la chute de Barcelone en 1939, en l'espace de 2 semaines, il y a environ 500 000 de personnes opposées au franquisme et qui étaient venues trouver refuge en Catalogne, qui vont passer la frontière et arriver en France. Donc faut pas nous la raconter, les frontières, s'il faut leur trouver une utilité, c'est bien pour être traversées. C'est d'ailleurs ce qu'a fait George Orwell, auteur du chef-d'œuvre glaçant 1984, qui parle si bien du régime totalitaire et de l'usage mortifère de la surveillance et du contrôle des individus. Allez, on essaye de le suivre, George Orwell, cet électron libre, né en Inde en 1903 sous le nom d'Eric Blair. Dans sa jeunesse, il va d'abord s'engager en Birmanie, dans la police indienne impériale. 6 ans plus tard, ne voulant plus cautionner l'impérialisme britannique, il démissionne. Il séjourne ensuite à Londres et à Paris, où les inégalités sociales qu'il constate et éprouve l'amènent à écrire sur les classes populaires. Mi-écrivain, mi-vagabond, il est marqué par les conditions de vie et la grande misère des mineurs du nord industriel de l'Angleterre et se rallie à la cause socialiste. En 1936, il arrive comme journaliste dans une Espagne alors déchirée par la guerre civile. Très vite, il décide de s'engager contre le franquisme dans la milice du Parti ouvrier d'unification marxiste, le PUM. Il vient d'arriver à Barcelone, et c'est là-bas que nous le retrouvons. Dans la caserne Lénine, à Barcelone, la veille de mon engagement dans les milices, je vis debout, devant la table des officiers, un milicien italien. C'était un jeune homme de 25 ou 26 ans, de forte carrure, les cheveux d'un jaune roussâtre, l'air inflexible. Il portait sa casquette de visière en cuir, farouchement inclinée sur l'œil. Je le voyais de profil. Le menton touchant la poitrine, les sourcils froncés, comme devant un casse-tête, il contemplait la carte que l'un des officiers avait dépliée sur la table. Quelque chose en ce visage m'émut profondément. C'était le visage de qui est capable de commettre un meurtre ou de donner sa vie pour un ami. Le genre de visage qu'on s'attend à voir à un anarchiste. Encore que cet homme fût peut-être bien un communiste. Il reflétait ce visage, la bonne foi, en même temps que la férocité. Et ce pathétique respect aussi que les illettrés vouent à ceux qui sont censés leur être supérieurs. On voyait aussitôt que ce milicien ne comprenait rien à la carte et qu'il en considérait la lecture comme un prodigieux tour de force intellectuelle. Je ne sais trop pourquoi, mais j'ai rarement vu quelqu'un, j'entends un homme, pour qui je me sois ainsi pris d'une sympathie instantanée. Au cours de la conversation, une quelconque remarque révéla incidemment mon identité d'étranger. L'Italien releva la tête et dit vivement « Italiano ?» En mon mauvais espagnol, je répondis « No, inglés, itu, italiano. » Lorsque nous fûmes sur le point de sortir, il vint à moi et me serra la main très fort. C'est étrange, l'affection que l'on peut ressentir pour un inconnu. Ce fut comme si la fougue de nos deux cœurs nous avait momentanément permis de combler l'abîme d'une langue, d'une tradition différente et de nous rejoindre dans une parfaite intimité. J'ai plaisir à croire qu'il éprouva pour moi une sympathie aussi vraie que celle qu'il m'inspira. Mais je compris aussi que si je voulais conserver de lui ma première impression, il me fallait ne point le revoir. Et il va sans dire que je ne l'ai jamais revu. C'était courant en Espagne des contacts de ce genre. Si je parle de ce milicien italien, c'est que j'ai gardé de lui un souvenir vivace. Avec son uniforme minable et son visage farouche et pathétique, il est demeuré pour moi le vivant symbole de l'atmosphère toute particulière de ce temps-là. Il est lié à tous mes souvenirs de cette période de la guerre, drapeau rouge flottant sur Barcelone, train lugubre bondé de soldats loqueteux, roulant lentement vers le front, ville grise, ravagée de l'arrière, tranchées boueuses et glaciales dans les montagnes. On était en décembre 1936. Il y a de cela, au moment où j'écris, moins de 7 mois. Et cependant, il me semble déjà qu'il s'agit d'une époque très lointaine. Les événements postérieurs la font oublier, bien plus complètement qu'ils font oublier 1935 ou 1905. J'étais venue en Espagne dans l'intention d'écrire quelques articles pour les journaux, mais à peine arrivée, je m'engageais dans les milices, car à cette date et dans cette atmosphère, il paraissait inconcevable de pouvoir agir autrement. Les anarchistes avaient toujours effectivement la haute main sur la Catalogne, et la révolution battait encore son plein. Sans doute, quiconque était là depuis le début devait avoir l'impression, même déjà en décembre et en janvier,
que la période révolutionnaire touchait à sa fin. Mais pour qui arrivait alors directement d'Angleterre, l'aspect saisissant de Barcelone dépassait toute attente. C'était bien la première fois de ma vie que je me trouvais dans une ville où la classe ouvrière avait pris le dessus. À peu près tous les immeubles de quelque importance avaient été saisis par les ouvriers, et sur tous flottaient des drapeaux rouges, ou les drapeaux rouges et noirs des anarchistes. Pas un mur qui ne portât griffonné le marteau et la faucille, et les sigles des partis révolutionnaires. Il ne restait presque de toutes les églises que les murs, et les images saintes avaient été brûlées. Ça et là, on voyait des équipes d'ouvriers en train de démolir systématiquement les églises. Tout magasin, tout café portait une inscription vous informant de sa collectivisation, jusqu'aux caisses des cireurs de bottes, qui avaient été collectivisées et peintes en rouge et noir. Les garçons de café, les vendeurs, vous regardaient bien en face et se comportaient avec vous en égaux. Les tournures de phrases serviles ou même simplement cérémonieuses avaient pour le moment disparu. Personne ne disait plus « señor » ou « don », ni même « usted ». Tout le monde se tutoyait et s'appelait « camarade ». Et l'on disait « salut » au lieu de « buenos días ».
Escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero Bonifacio.
Thank you.
On est ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire. On vient d'écouter El Silbo de Feloche, une chanson pleine de soleil, de nuages salés sur les reliefs volcaniques qui nous a fait voyager au-dessus de l'océan Atlantique jusqu'aux îles Canaries et nous poser à La Gomera. Eh oui, les êtres humains, pour se parler, sifflent parfois comme les oiseaux. À l'origine, avant l'arrivée des Espagnols, les Guanches, peuple autochtone des îles Canaries, utilisaient ce langage. Il leur permettait de communiquer sans aucune assistance technologique à de très grandes distances sur leur île escarpée. On dit qu'il peut porter à près de 8 km. C'est déjà pas mal quand on veut se passer du téléphone. Il a servi pendant la guerre d'Espagne, mais ensuite il a failli disparaître, comme de nombreuses langues de par le monde. Il est aujourd'hui enseigné à La Gomera et y résiste toujours, malgré l'avancée des langues dominantes. Allez, on retourne en Catalogne, aux côtés de George Orwell, qui témoigne de ce qu'il a vécu pendant la guerre d'Espagne. Il n'y avait pas d'automobiles privées. Elles avaient été réquisitionnées. Et tous les trams, taxis et bon nombre d'autres véhicules étaient peints en rouge et noir. Partout, des placards révolutionnaires, avec leur rouge et leur blanc, se détachaient de façon éclatante sur les murs. Et par contraste, les quelques affiches de naguère, qui y étaient demeurées, avaient l'air de barbouillages de boue. Sur les Ramblas, large artère centrale de la ville, constamment animée par le va-et-vient de flots de gens, les haut-parleurs beuglaient des chants révolutionnaires tout le long du jour et jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et le plus étrange de tout, c'était l'aspect de la foule. À en croire les apparences dans cette ville, les classes riches n'existaient plus. À l'exception d'un petit nombre de femmes et d'étrangers, on ne voyait pas de gens bien mis. Presque tout le monde portait des vêtements de prolétaire, ou une salopette bleue, ou quelques variantes de l'uniforme de la milice. Tout cela était étrange et émouvant. Une bonne part m'en demeurait incompréhensible, et même en un sens, ne me plaisait pas. Mais il y avait là un état de choses qui m'apparut sur le champ, comme valant la peine qu'on se battît pour lui. C'est que je crus que la réalité répondait à l'apparence, qu'il s'agissait réellement d'un état prolétarien, et que des bourgeois ne restaient, beaucoup ayant fui ou ayant été tués, que ceux qui s'étaient de leur plein gré rangés aux côtés des ouvriers. Je ne me rendis pas bien compte que tout simplement, en grand nombre, les bourgeois aisés se tairaient, ou provisoirement, se déguisaient en prolétaires. L'atmosphère sinistre de la guerre y était aussi pour quelque chose. La ville avait un aspect lugubre et négligé. Les routes, les maisons étaient mal entretenues. Les rues, la nuit, n'était que faiblement éclairée par la crainte de raids aériens. La ville avait un aspect lugubre et négligé. Les magasins, pour la plupart, avaient pauvre apparence et étaient à moitié vides. La viande se faisait rare, et il était à peu près impossible de se procurer du lait. On manquait de charbon, de sucre et d'essence, et très sérieusement de pain. Déjà à cette époque, les queues aux portes des boulangeries s'allongeaient sur des centaines de mètres. Cependant, autant qu'on pouvait en juger, les gens étaient contents, emplis d'espoir. Le chômage était inexistant et le coût de la vie encore extrêmement bas. On ne voyait que très peu de personnes vraiment dans la misère et pas de mendiants, à part les bohémiens. Et surtout, il y avait la foi dans la révolution et dans l'avenir, l'impression d'avoir soudain débouché dans une ère d'égalité et de liberté. Les êtres humains cherchaient à se comporter en êtres humains, et non en simple rouage de la machine capitaliste. Dans les boutiques des barbiers, des avis au public rédigés par des anarchistes, les barbiers étaient pour la plupart des anarchistes, expliquaient gravement que les barbiers n'étaient plus des esclaves. Dans les rues, des affiches bariolées conjuraient les prostituées de ne plus se prostituer. Pour qui venait juste de quitter les durs accueillirs sarcastiques et cyniques des pays anglo-saxons, c'était assez pathétique de voir ces Espagnols idéalistes prendre à la lettre les clichés révolutionnaires les plus rebattus. À cette époque, on vendait dans les rues pour quelques centimes des romances révolutionnaires des plus naïves, célébrant toute la fraternité prolétarienne et honnissant la méchanceté de Mussolini. Maintes fois, j'ai vu un milicien presque illettré acheter une de ses chansons, en épeler laborieusement les mots, et lorsqu'il en avait saisi le sens, se mettre à la chanter sur l'air approprié. Pendant tout ce temps, j'étais à la caserne Lénine, sous prétexte d'entraînement pour le front. Le jour où je m'étais engagé dans les milices, on m'avait dit que le lendemain même, je serais envoyé au front. Mais en fait,
il me fallut attendre qu'une ceinturie nouvellement formée fût suffisamment entraînée. Les milices ouvrières, levées en toute hâte par les syndicats au début de la guerre, n'avaient pas été organisées sur la base d'une armée ordinaire. Les unités de commandement étaient la section d'environ 30 hommes, la ceinturie d'une centaine d'hommes et la colonne, terme appliqué en pratique à toute troupe nombreuse. Auparavant quartier de cavalerie, dont on s'était emparé au cours des combats de juillet, la caserne Lénine était un superbe bâtiment en pierre avec un manège et d'immenses cours pavés. Ma ceinturie dormait dans l'une des écuries, sous les mangeoires de pierre qui portaient encore le nom des chevaux de bataille. On avait réquisitionné et envoyé sur le front tous les chevaux, mais tout demeurait imprégné de l'odeur du pissa et de l'avoine pourrie. Je suis restée dans cette caserne environ une semaine. Je garde surtout souvenir des odeurs chevalines, des sonneries de clairons chevrotantes. Nos clairons étaient tous des amateurs. Je n'ai connu les véritables sonneries espagnoles qu'en entendant celles qui nous parvinrent des lignes fascistes. Du martèlement de la cour par de lourdes bottes à semelles cloutées. De longues revues. Le matin, sous un soleil hivernal, des parties forcenées de football à 50 par camp sur le gravier du manège. Il devait y avoir dans la caserne un millier d'hommes et une vingtaine de femmes, outre les épouses des miliciens qui faisaient la cuisine. Il y avait alors des femmes enrôlées dans la milice, en faible nombre, il est vrai. Dans les premiers temps de la guerre, elles avaient, comme de juste, combattu côte à côte avec les hommes. En temps de révolution, cela paraît tout naturel. Déjà, pourtant, l'état d'esprit avait changé. Il fallait à présent retenir les hommes à l'extérieur du manège pendant que les femmes y faisaient l'exercice, car ils se moquaient d'elles et les gênaient. Peu de mois auparavant, aucun d'eux n'eût rien trouvé de comique à voir une femme manier un fusil.
Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, la tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, la tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos y el dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. Tiene, ah, ah.
que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuyos de Trump, y es que no hay respeto, y algunos se creen Dios.
Après l'hommage à la Catalogne de George Orwell, on vient d'écouter le ska de la Tierra de Bebe. Quel rythme, quelle pulsation! La terre a de la fièvre parce qu'elle pense qu'on ne l'aime plus. Qu'il n'y a pas de respect pour la terre que nous foulons et qu'il n'y a pas de respect pour ceux qui sont sans terre. Elle, dans son immensité, dans sa diversité hasardeuse et heureuse, elle doit se demander pourquoi on ne lui fout pas la paix, pourquoi on ne l'écoute que lorsqu'elle se soulève. Voilà, ça fait une heure maintenant qu'on est ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire. On est arrivé sans peine, sans effort, et je remercie Iris, qui, tel un chat noir presque invisible dans la nuit, m'a suivi et m'a permis de réaliser cette première balade. On se retrouve le mois prochain, le troisième dimanche, c'est-à-dire le 18 juin, dans la nuit du dimanche au lundi. On ira cette fois un peu plus vers l'Orient et je serai peut-être même accompagnée pour cette prochaine balade. D'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes et vos suggestions de lecture à l'adresse mail de l'émission sous la voix 89.4@proton.me. Les infos sont sur le site de Radio Libertaire. Que tu sois en roue libre dans les rues de Paname, en barque de bois sur le lac Baïkal, ou que tu dormes dans la garrigue, sous la nouvelle lune et des milliers d'étoiles, bonne balade à toi. Moi, je regarde le ciel noir et je vois briller la voix intense de Billie Holiday, qu'on va maintenant écouter dans une version originale d'Organica Remix, pour se dire au revoir. Summertime par Billie Holiday.